C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Il y a des personnages historiques qui changent de registre de l'histoire. L'histoire avec un grand I, on les retrouve dans les films, les livres et toutes sortes de fictions. Difficile alors de séparer l'histoire, la vraie, de l'invention. Revenons aujourd'hui sur Robin des Bois. On connaît la légende du brigand au grand cœur vivant caché dans la forêt de Sherwood. Mais que se cache-t-il derrière la fiction ? Que trouve-t-on sur Robin des Bois dans l'histoire ? L'histoire avec un grand I. Réponse avec la meilleure équipe d'historiens et d'historiennes des ondes radio françaises, l'équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Hagrid Chauvier.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question peut-être pour démarrer l'émission, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas la légende de Robin des Bois, est-ce qu'on peut la rappeler telle qu'on l'apprend dans les films, dans les livres ?
Robin des Bois était finalement un bandit. Un bandit, à l'époque, il était considéré comme un bandit au moment de la guerre de 100 ans, donc, qui sévit entre la France et l'Angleterre. D'ailleurs, une des légendes raconte qu'il aurait vécu 100 ans et que ça aurait été toute la durée de la guerre, qu'il aurait eu cette longévité. Cette longévité, voilà, mais c'est encore une fois, c'est un personnage tellement énigmatique. Comme vous l'avez dit, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin, on sait qu'est-ce qui est vrai, bien sûr. Il y a quelque chose dont on est, quelques éléments dont on est sûr, mais alors on entend des choses, mais
il y a eu beaucoup de légendes. Il y a eu beaucoup de légendes. Il y a eu beaucoup de légendes, notamment autour de sa longévité, comme l'a dit.
Longévité.
C'est ce que j'ai dit.
Non.
Beaucoup de légendes autour du personnage, mais on sait aujourd'hui faire le vrai du faux. Si Robin des Bois était un pseudonyme, Robin Dubois a bien existé
Exactement.
Et était un bandit né en 1214 en Normandie.
Et je reviens là-dessus, parce que c'est important, cette émission qu'on va faire aujourd'hui, moi ça me tient à cœur, parce qu'en effet, encore aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur Robin Dubois, et les légendes continuent, finalement, on continue d'entendre des nouvelles choses, des nouveaux livres qui sortent. Donc vraiment, vous qui écoutez cette émission, voilà, vous êtes en présence d'historiens, nous avons justement la vérité sur Robin Dubois, n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit. Là, qu'est-ce que j'entendais récemment ? J'entendais qu'on disait que finalement Robin des Bois, puisque voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, ne serait même pas humain et que ce serait un renard.
Un renard, ça c'est vraiment ça, c'est la faute
voilà,
de Disney.
Non, mais il faut arrêter avec les légendes autour de Robin des Bois.
Et le roi de France à l'époque n'était pas un lion.
Non.
C'était bien Richard dit cœur de lion,
oui.
Mais pas
roi
un lion littéral.
Et attention, son cœur non plus n'était pas celui d'un lion.
Non.
Non, la chirurgie cardiaque n'existait pas à l'époque, il n'y a pas eu de transplantation.
La première transplantation de cœur date de 1714, tout court.
Et la première transplantation de cœur animale de 1824, et c'était un cœur de chèvre et non de lion.
Tout à fait. Cela dit, c'est une opération qui a beaucoup augmenté la longévité des patients. Longévité des patients.
Très bien. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur l'usage de ce pseudonyme, on va dire, entre Robin des Bois, Robin Dubois ? Pourquoi l'usage d'un pseudo comme ça ?
Alors, il faut revenir sur l'histoire finalement de Robin Dubois, donc, qui, comme on l'a dit, est né en Normandie et qui très rapidement va aller s'installer avec ses parents en Angleterre. Donc voilà, c'est là que finalement il se fera un nom. Robin Dubois. Donc il va s'installer à Sherwood et assez rapidement dans sa jeunesse il va commencer justement ses larcins.
Voilà. Il arrive à Sherwood, il a à peine 16 ans, hein, mais à l'époque on considère que c'est déjà l'âge adulte. Et sa famille n'étant pas très riche, elle a dû laisser beaucoup de ses possessions en Normandie. Il commence à se tourner vers les petits larcins, la rapinerie. Dans la forêt d'abord, il détrousse à tout va quiconque traverse le chemin. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, rameutant quelques amis autour de lui, il va commencer à s'attaquer au village environnant, notamment le village de Northamford, qui est un des premiers à subir les coups de la bande de Robin Dubois. Et en fait, à partir des gens, des survivants qui se sont échappés de Northamford, c'est là que la légende commence. En fait, très tôt, du vivant même de Robin Dubois. Et son nom commençant déjà à inspirer la terreur, beaucoup de brigands alentour commencent à se faire appeler Robin, alors que ce n'était pas du tout leur nom. D'où l'impression qu'en fait, Robin n'est pas Robin Dubois, mais Robin de tous les bois environnants. Et c'est là qu'on tire le Robin des bois.
D'ailleurs, en anglais, ça se dit Robin of the Woods et non Robin Hood, comme ça a été mal traduit par l'histoire.
Robin of the Woods, tout à fait. Donc, notre personnage s'installe en Angleterre. Déjà, c'est, je suppose, pas très courant à l'époque, comme ça, de changer de pays. Mais visiblement, il s'intègre bien. Comment est-ce qu'il arrive à former cette bande de brigands autour de lui assez rapidement?
C'est une bande de brigands, donc en fait, il va imposer le respect, finalement. Comme je vous l'ai dit, comme l'a dit Hagrid, pardon, il a tout juste 16-17 ans lorsqu'il commence ses premiers larcins, et la première personne, entre guillemets, qui fait partie de son gang, puisque ce n'était pas une personne, c'était un ours qu'il appelait Petit Jean, et là, pour le coup, le dessin animé dit vrai, c'était un véritable ours qu'il a domestiqué, et avec lequel, justement, il attaquait les carrosses qui traversaient la forêt. Et donc, en fait, ayant cet ours à disposition, voilà, il va imposer le respect, finalement, à tous les brigands du coin qui vont se rallier à sa cause de Sherwood.
Beaucoup plus facile de convaincre quand on a un ours domestique, quand même.
C'est sûr. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi il y avait un ours dans la forêt de Sherwood?
Ah bah, à l'époque, il y avait des ours un peu partout. Hein,
Ah oui.
Ils ont disparu avec le temps. Enfin, plus ou moins. Ils ne sont pas dans les forêts comme ça.
Ils ne sont pas disparus, ils se sont rassemblés à des endroits plus stratégiques.
Mais oui, alors on s'imagine mal les forêts du Moyen-Âge, mais c'était une biodiversité toute différente. Hein. On avait régulièrement des hardes de rennes qui descendaient jusqu'aux abords de la forêt de Sherwood, ça se trouvait. Il y avait des frelons qui faisaient la taille d'un poing. C'était très, très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, cela dit, l'exploit de domestiquer un ours, c'était quelque chose de très nouveau à l'époque et qui n'avait été pas beaucoup vu encore au Moyen-Âge.
Mais très charismatique, Robin Dubois. Et d'où à mon avis, sa capacité à devenir ami avec un ours.
Très bien. Donc en fait, si je comprends bien, ses premiers larcins se font en duo avec lui.
Petit Jean.
Tout à fait. Et ça va suffire à imposer le respect de potentiels compatriotes anglais qui vont venir avec lui et former un groupe, si je comprends bien.
Ouais, ils ont créé toute une mythologie autour d'eux, en fait, et de Petit Jean. Donc c'est un groupe de brigands. Et à cette époque, quand on se balade dans la forêt de Sherwood, on a peur. On a peur de se faire tomber dessus par Robin Dubois, Petit Jean ou leur bande. Et dès qu'on commençait à entendre la musique, on savait qu'ils étaient sur nous. Hein.
Alors justement, vous parlez de musique, je pense que c'est l'heure de...
Ah oui, c'est une musique terrifiante. Ha ha ha.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. Après, vous aurez reconnu Whistle Stop, la chanson très connue des différents films sur Robin des Bois. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur cette musique qui, d'après ce que je comprends, a un vrai intérêt historique ici?
Comme le disait Julien, voilà, c'était effectivement la musique, finalement, l'appel que se faisait la bande à Robin lorsqu'ils étaient dans les bois, avant de passer à l'assaut. Donc en fait, lorsqu'on entendait cette musique, il était déjà trop tard, vous étiez déjà encerclés. Mmh. Et il fallait se tenir prêt.
Et je trouve qu'ils ont fait un bon travail de retranscription. C'est très très proche de ce qu'on pouvait entendre, parce qu'on entend quelqu'un siffler, on entend quelqu'un chanter dans ses joues, on entend quelqu'un rire, et c'est vraiment cette ambiance. Moi, ça me met des frissons quand j'entends ça. J'ai peur de me faire agresser. C'est vraiment une musique terrifiante et qui est bien retranscrite, là, je trouve. Mmh.
Tout à fait. N'en déplaise à Thierry Lafleur, c'est une des choses qui se sont bien transmises, y compris dans les productions modernes. À l'inverse, et là je sais que je vais vous faire crisser des dents, vous êtes tout à fait énervé, comme nous tous, hein, à différents degrés, que l'on représente Robin des Bois avec un arc.
Oui, alors là, non, c'est ridicule.
Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser, petite parenthèse, tant qu'on parle de la musique, la chanson n'a jamais été chantée par un coq avec une guitare.
Non.
Contrairement à ce qui est montré dans le dessin animé. Et jamais. Hein.
Jamais.
Non.
Pas de coq avec une guitare.
Aucun coq avec une guitare. Okay. Dans
surtout pas, mais non.
Ça aurait été très incompatible avec Petit Jean.
Oui, parce qu'on se doute bien qu'un coq. Ça va pas faire bon ménage.
Non, le coq avec une guitare, c'est un amalgame, en fait, avec un autre héros, mais normand, lui, d'origine, qui s'appelait Coq-Atrax.
Et qui était le barde de la bande, finalement.
Oui. Donc effectivement, Agri l'a rappelé, on va en parler, mais Robin des Bois n'a jamais tiré à l'arc.
Non, il n'a jamais tiré à l'arc, il se déplaçait toujours donc à dos de Petit Jean, et en fait, il se grimait un peu pour ne faire qu'un avec son ours.
Et puis de toute façon, Petit Jean n'aurait pas pu, Robin des Bois n'aurait pas pu tirer à l'arc, puisque Petit Jean lui avait croqué trois doigts... à la main droite.
Tout à fait.
Et donc, en fait, et il se grimait. Physiquement, il n'aurait pas pu tirer à l'arc.
C'est-à-dire
Robin Dubois se battait comme un ours.
Comme un ours.
Il se laissait pousser les ongles. Il était souvent nu avec une peau de bête pour simple apparat. Et en fait, il se battait à main nue comme un ours. Il n'a jamais utilisé d'arc. C'était une manière très sauvage de se battre, finalement.
Tout à fait. Son mode opératoire, depuis le début, on l'a dit, est basé sur la terreur. On pourrait dire que Robin Dubois est un peu le premier terroriste de l'histoire. Et donc, vous vous imaginez bien que c'est autrement plus impressionnant de fondre sur ses ennemis à l'arme blanche en sifflotant, plutôt que de se cacher pour décocher une flèche sournoise sur les voyageurs qui n'auraient rien vu.
Voilà. Et tout ça, c'est pour enjoliver, finalement, le personnage. Et ça me met hors de moi, parce que on l'a dit, voilà, il y a des choses qui sont énervantes, il y a le renard, il y a le coq qui chante, mais la chose la plus importante, et ça très peu de personnes le savent, c'est que la légende est fausse. Non, Robin des Bois n'a pas volé les riches pour donner aux pauvres.
Non.
C'était totalement l'inverse.
Totalement l'inverse.
Il volait aux pauvres
pour donner aux riches.
Ah oui.
Et c'est pour ça que surtout quand on représente Robin des Bois et sa rivalité avec le roi d'Angleterre de l'époque, c'est faux. Ils étaient amis comme cochons. Robin des Bois a enrichi la couronne anglaise à cette époque. Il était vraiment au service de la royauté.
Tout à fait. Ses premières opérations ont été faites de manière totalement indépendante, mais le roi a vite compris l'intérêt à maintenir des bandes de bandits très effrayants dans les campagnes, parce que ça faisait un danger beaucoup plus immédiat pour préoccuper les paysans, plutôt que la menace lointaine de la couronne, en fait. Et donc, très très vite, Robin Dubois a été subventionné. On lui a prodigué tous les soins vétérinaires nécessaires à la santé de Petit Jean. Hein. Les meilleurs soigneurs du royaume allaient régulièrement à Sherwood pour prendre soin de cette petite bande. Et voilà, on l'a vu se balader librement dans la cour du château.
Avec Petit Jean ?
Avec Petit Jean.
Lui-même également à quatre pattes, puisqu'il se déplaçait souvent comme un ours.
Vous avez sans doute vu ces images, ces vieilles gravures d'une personne qui se promène avec un ours. Ce sont toutes, elles sont toutes basées sur une première image, un codex du XIIIe siècle qui dépeint pour la première fois Robin Dubois à la cour du roi d'Angleterre. Toutes les autres ne sont que des copies.
Toutes les autres ne sont que des copies. Donc, en fait, la légende est dans l'histoire, la vraie, l'histoire avec un grand I, complètement inversée. On a un brigand qui sème la terreur pour le bénéfice des plus riches et qui va venir taper sur les pauvres.
Et en fait, c'est là que justement on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire que nous, en tant qu'historiens, on est un peu justement les gardiens de la vérité. Et au-delà de la légende, on peut parler de propagande. C'est-à-dire que cette légende, elle ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que assez rapidement, c'était une propagande qui était mise en place, mais dès le Moyen Âge, justement pour embellir ce personnage de Robin Dubois, qui finalement était une crapule parmi les pires crapules du royaume d'Angleterre. Et en fait, c'était de la propagande qui a été mise en place à l'époque et qui aujourd'hui s'est transformée en légende et qu'on apprend aux enfants alors que non, il était au service du grand capital.
Et bon, bah voilà, après, concernant sa longue vie...
Longévité.
Longévité, c'est ça.
Je l'avais écrit à côté. Ah. Je l'avais écrit parce que ouais, c'est compliqué.
Concernant sa longévité, c'est encore une fois une invention. En fait, il n'y a pas eu un Robin Dubois. Enfin, il y a eu un Robin Dubois, mais qui a été ensuite remplacé par son successeur lorsqu'il est devenu trop vieux pour continuer à voler aux pauvres. Et pareil pour Petit Jean. Il y a eu plusieurs Petit Jean, mais en fait, dans la construction de sa légende, c'était bien plus effrayant et bien plus dangereux d'imaginer un espèce de brigand immortel, ou en tout cas qui ne subit pas l'âge et le temps. Et donc, ça fait pareil partie de la propagande de la couronne.
Et c'est là qu'est apparu aussi le métier de montreur d'ours. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'était des gens qui venaient passer le casting pour être le prochain Romain Dubois, et qui en fait venaient montrer leur ours. Et tout simplement juste le montrer. Et en fait, s'il n'était pas pris, il n'avait rien d'autre. Enfin, souvent, c'était des gens qui mettaient voilà, toute leur énergie là-dedans, dans la domestication d'un ours, et qui finalement, derrière, n'avaient rien d'autre que la capacité de montrer un ours. Et finalement, les montreurs d'ours, ça vient de là. C'est des gens qui ne savaient plus quoi faire après avoir raté le casting de Robin Dubois.
Il y a un point que j'aimerais soulever, parce que moi, ça m'émeut beaucoup, en fait. On oublie... on ne sait pas, mais les ours ont une longue durée de vie.
Non, attendez, oui. On va y arriver. Passez-moi la feuille sur laquelle vous l'avez écrit.
Je l'ai écrit là. C'est parce qu'il y a un G,
longévité.
Là. D'accord. Les ours ont une longévité un petit peu supérieure à celle des humains. Et donc... il y a toujours un petit laps de temps, en fait, quand le précédent Robin Dubois meurt, où son ours se retrouve tout seul. Et il faut savoir qu'un ours tout seul, ça n'est pas agressif, naturellement. Et donc, il y avait des espèces de périodes de pause, comme ça, dans la région de Sherwood, où pendant 3, 4, 5 ans, le temps qu'on retrouve le prochain Robin Dubois avec son propre ours, parce que les ours sont très fidèles, en fait, il y avait juste un ours tout seul qui errait, tristement. On l'entendait pleurer, des fois. Ouais. En fredonnant la petite chanson, mais on savait à son air triste que ce n'était plus une menace et que on avait un petit répit avant le prochain Robin Dubois.
D'ailleurs, les ours sont fondamentalement non violents. Hein. Ils mangent du miel et ils sont végétariens. Enfin, c'est des animaux parfaitement gentils. Et à mon avis, leur diabolisation dans les médias est en partie due à l'histoire de Robin Dubois et de Petit Jean.
Et oui, c'est pas un hasard si on en a fait les premières peluches. Les ours sont en fait très très doux, et physiquement et comportementalement. Et
est-ce que vous avez déjà vu leurs petites oreilles? Enfin, je veux dire, un animal aussi méchant tel qu'il est décrit n'aurait pas eu des petites oreilles aussi adorables.
Non.
Mais c'est pour ça que
voilà, cette
légende... Les petites pattes par rapport au gros corps.
Mais oui, les patounes, c'est...
Cette légende, finalement, ça a menti à tellement de gens et ça continue de mentir à la population.
Ça vous affecte, hein, Thierry.
Je ne comprends pas comment on peut encore sortir des inepties pareilles. C'est-à-dire, il y a encore des films qui sortent, il y a encore des films en production.
Vous avez vu le dernier Robin des Bois?
Si... C'est une connerie. Voilà, c'est une connerie. Je suis désolé.
Allez plutôt voir Frère des Ours, allez voir des films
voilà,
comme ça.
Voilà, ça, Frère des Ours, ça, voilà, là, on a la vérité.
Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Je pense qu'on peut... Enfin, arrêtez-moi Thierry, on le coupera sinon, mais arrêtez-moi Thierry. Mais il y a beaucoup d'émotions aussi parce que Bertrand Lafleur, le père de Thierry, était montreur d'ours. Hein, et il a passé sa vie à se battre contre les préjugés. Et donc, forcément,
bah oui.
C'est...
Bah oui.
Vous avez grandi à Montreux, d'ailleurs, en Suisse, la ville des montreurs d'ours. Mmh. Et ça, on sent que c'est une ville et une population qui a été particulièrement affectée par la propagande royaliste anglaise du XIIIe siècle.
Non, mais qui ouais. continue encore aujourd'hui. C'est ça le pire, quoi. Si encore, ça appartenait au passé. Mais...
Vous voulez un mouchoir, Thierry ?
Non, c'est pour se dire.
Bon, alors, revenons à notre sujet de Robin Dubois, Robin des Bois, et sortons de, la propagande, pour dire la vérité, la vraie, l'histoire avec un grand I. On a ce groupe-là qui est un peu sous les ordres du roi pour semer la terreur dans la forêt de Sherwood. Est-ce qu'on a d'autres bandes ? Vous alliez dire quelque chose, Thierry ?
Oui, bah non, mais justement, enfin, il y avait une bande rivale qui était menée justement par le shérif de Nottingham. Donc Nottingham, qui est une ville des États-Unis, où finalement, un jour, le shérif de Nottingham va avoir vent de ce qui se passe là-bas à Sherwood, et va traverser l'Atlantique pour se rendre à Sherwood et protéger finalement les plus faibles. C'était lui le véritable héros finalement. C'était le shérif de Nottingham.
Donc il y avait rivalité finalement entre... c'était pas juste simplement la bande de Robin des Bois contre les pauvres. Il y avait quand même quelqu'un qui s'est réveillé quelque part dans le monde pour venir protéger... le peuple anglais.
Alors bien sûr, ça arrivait assez tard. Hein. C'était près de 20 ans après le début de la légende de Robin des Bois, parce que déjà il a fallu que l'histoire traverse l'Atlantique et puis qu'ensuite le shérif de Nottingham traverse les États-Unis puis l'Atlantique. Mais c'était un véritable héros qui s'est battu contre cette mascarade, contre ce brigand, contre cette violence et qui a protégé les habitants de Sherwood et qui a ensuite été diabolisé. En Angleterre, mais si vous allez à Nottingham dans le Nevada, vous verrez une magnifique statue en bronze à l'entrée de la ville du shérif de Nottingham se battant contre un Robin du Bois montant un ours. C'est un hommage à la vraie histoire, à l'histoire avec un grand I.
Et cette statue est incroyable puisqu'elle retranscrit très bien le combat finalement qui a mené le shérif à sa perte.
Ouais.
Et on le voit du coup agrippant avec un lasso l'ours, donc Petit Jean.
Oui.
Et en fait, on voit, la statue est très bien faite, hein. On voit dans le regard de l'ours, finalement, la tristesse de s'être fait attraper comme ça, et on voit dans le regard du shérif de Nottingham, la même tristesse. Justement, il se rend compte que l'ours n'est pas le méchant dans l'histoire,
et oui,
contrairement...
Vous venez de faire un lapsus, Thierry, mais vous avez dit rencontre, et c'est vraiment ça qui s'est passé.
Oui.
C'est-à-dire que le temps d'un instant, leurs regards se sont rencontrés,
oui.
Et l'ours... animal pacifiste par essence, comme nous l'avons déjà évoqué, et le shérif de Nottingham, qui n'était que là pour rétablir l'ordre, se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux manipulés, en quelque sorte, par Robin et par le roi, le capital, exactement.
Et malheureusement...
Et les deux en sont morts.
Et malheureusement, le shérif de Nottingham perdra cette bataille, agrippé à la gorge par la mâchoire puissante de Robin Dubois. Et il périra de ses blessures, mais pendant 15 ans, il a protégé Sherwood et ses alentours, et son nom a été traîné dans la boue, mais il faut rétablir la vérité, c'était un véritable héros.
Voilà, donc là encore une preuve de l'inversion complète qui est faite entre les légendes telles qu'on les raconte dans la fiction et l'histoire avec un grand I.
Il existe seulement une œuvre qui prend cette histoire dans son sens historique. C'est un film constructiviste russe des années 20 qui a été fait par Sergeyev où le shérif de Nottingham est donc le héros qui se bat pour l'ordre et la justice contre une monarchie corrompue. Trop peu de gens l'ont vu, mais je le recommande à tous.
Et là où le grand capital est horrible avec ce qu'il fait, parce que c'est vrai que dans le Disney là, et bien le shérif de Nottingham, il est quoi? Et bien c'est un ours. Et c'est le méchant, et c'est un ours également. Et là c'est...
Ouais.
C'est plus possible, en fait. C'est plus possible.
Ça va
aller. Non, mais c'est plus possible.
Thierry, qu'on a gros sur le cœur hein, de la propagande du grand capital en général, mais en particulier autour des ours.
C'est touchant. C'est, C'est un animal qui a beaucoup souffert, et c'est des gens à côté de ça qui ont beaucoup souffert. C'est des histoires brisées par...
Rappelez-vous Canel dans les Pyrénées. Ce jour-là, on était avec Thierry.
On parle pas de Canel.
On évite le sujet désormais.
On évite le sujet. Parlons d'ours, justement. Est-ce que vous en avez adopté, vous, des ours?
Depuis que mon papa a perdu son ours, j'ai vu la peine que ça lui a fait. Et aujourd'hui, les ours appartiennent à la nature, et je pense que c'est très bien comme ça. Ils sont tout de même en voie de disparition, ils ont été trop montrés. Je pense qu'on peut leur donner le répit qu'ils méritent, et qu'on arrête de les traîner dans la boue.
Ouais, le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire, c'est justement de cesser, je pense, de les instrumentaliser, hein, que ce soit pour un camp comme pour l'autre, et de les laisser retourner à la quiétude, la plénitude qui est la leur originellement.
Je pense qu'on peut quand même parler de belles initiatives qui ont eu lieu récemment. L'association Les Amis des Ours, on récolté beaucoup de fonds il n'y a pas très longtemps, et ont ouvert un territoire indépendant réservé aux ours pour qu'ils puissent vivre pleinement. Donc entre l'Espagne et dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France, à côté d'Andorre, il y a un territoire indépendant qui est en train de se monter de 20 km carrés, qui est réservé aux ours pour en faire la première réserve mondiale d'ours. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à donner, si c'est une cause qui vous tient à cœur comme nous, lesamidesours.com.
Une très belle association, on leur souhaite une très grande longévité.
C'est le G qui vient avant.
Ah, c'est le longévité.
Il y avait vite.
Non, après c'est le V.
Longévité.
Conjonctivite, c'est un truc.
Oui, ça c'est les yeux.
Ah, pardon.
Longévité.
Ah. Longévité.
Longévité. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Robin Dubois. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.